Chapitre 4. Projet de mission. Version anglaise. Pour Capitaine Tatiana Orlov, commandant de vaisseau spatial, cosmonaute Alexei Leonov. Enregistrement UNCOS 08/342. 2. Conseil national de l'astronautique, Pennsylvania Avenue, Washington. Commission de l'espace extérieur, Académie des sciences de l'URSS, Perspective Korolev, Moscou. Objectifs de la mission. Les objectifs de la mission, par ordre de priorité, sont 1. De se rendre dans le système de Jupiter et d'effectuer un rendez-vous avec le vaisseau US Discovery, UNCOS 01/283. 2. D'aborder ce vaisseau et d'obtenir toutes les informations possibles sur le déroulement de sa mission. 3. De réactiver les systèmes opérationnels de Discovery et, si les réserves de propergol sont suffisantes, de le propulser sur une trajectoire de retour vers la Terre. 4. De localiser l'objet étranger découvert par Discovery et de l'étudier à distance de toutes les façons possibles à l'aide d'instruments. 5. Si cela paraît souhaitable et avec l'accord du centre de contrôle, d'effectuer un rendez-vous avec cet objet pour l'examiner de plus près. 6. D'effectuer une reconnaissance de Jupiter et de ses satellites pour autant que ce soit compatible avec les objectifs sus-indiqués. Il est entendu que des circonstances imprévisibles pourront exiger un changement de priorité ou même rendre impossible d'atteindre certains de ces objectifs. Il doit être clairement établi que le rendez-vous avec le vaisseau Discovery est projeté expressément pour obtenir des informations sur l'objet étranger, ce qui doit prendre le pas sur tout autre objectif, y compris les tentatives de récupération. Équipage. Équipage du vaisseau Alexei Leonov. Capitaine Tatiana Orlov, ingénierie, propulsion. Docteur Vassili Orlov, navigation, astronomie. Docteur Maxime Brailovski, ingénierie, structure. Docteur Alexandre Kovalev, ingénierie, communication. Docteur Nikolai Ternovski, ingénierie, système de contrôle. Chirurgien-major Katerina Rudenko, santé, système vitaux. Docteur Irina Yakounine, santé, diététique. De plus, le Conseil national de l'astronautique US fournira les trois experts suivants. Le docteur Heywood Floyd reposa le rapport et se laissa aller contre le dossier de sa chaise. Tout était réglé. Le point de non-retour était passé. Même s'il l'avait voulu, il était impossible de revenir en arrière. Il jeta un coup d'œil vers Caroline, assise au bord du bassin avec le petit Chris qui avait 2 ans. L'enfant était plus à l'aise dans l'eau que sur terre et pouvait rester submergé pendant si longtemps que les visiteurs en étaient terrifiés. Et s'il ne savait pas encore grand-chose du langage des humains, il paraissait déjà parler couramment celui des dauphins. Un des amis de Chris venait d'entrer en nageant et présentait son dos pour être caressé. « Toi aussi, tu es un vagabond, » se dit Floyd, « dans un océan immense et vierge de tout chemin. Mais comme ton Pacifique paraît petit devant l'immensité à laquelle je fais face. » Caroline sentit son regard et se leva. Elle le regarda d'un air sombre, mais sans colère. Tout cela s'était consumé pendant ces derniers jours. En s'approchant, elle réussit même à lui faire un sourire désenchanté.
« J'ai trouvé le poème que je cherchais, » dit-elle. Il commence ainsi. « Qu'est une femme pour que tu l'abandonnes, ainsi que l'âtre et la terre natale, pour suivre le vieux et gris faiseur de veuve ?»«
Désolé, je ne comprends pas bien. Qui est le faiseur de veuve ?»«
Pas qui ? Quoi ?» La mère. Le poème est la lamentation d'une femme viking. Il a été écrit par Rudyard Kipling il y a un siècle.
Floyd prit la main de sa femme. Elle ne réagit pas, mais ne résista pas non plus.
Eh bien, je n'ai pas du tout l'impression d'être un viking. Je ne vais pas chercher de butin, et l'aventure est le dernier de mes soucis.
Alors pourquoi ? Je n'ai pas envie de relancer une autre dispute. Mais cela nous aiderait tous les deux si tu savais exactement quels sont tes motifs.
Je voudrais pouvoir te donner une seule bonne raison, au lieu de quoi j'ai une légion de petites raisons. Mais elles s'additionnent pour donner une réponse que je ne peux pas remettre en cause, crois-moi.
Je te crois, moi. Mais es-tu sûr que tu ne te racontes pas des histoires ?
Si c'est le cas, alors beaucoup de gens le font. Y compris, puis-je te le rappeler, le président des États-Unis.
Je ne suis pas prêt de l'oublier. Mais suppose seulement qu'il ne te l'ait pas demandé. Aurais-tu été volontaire ?
Je peux répondre à cela sans hésiter. Non. Cela ne me serait jamais venu à l'esprit. L'appel du président Mordecai a été la plus grande surprise de ma vie. Mais en y réfléchissant, j'ai compris qu'il avait parfaitement raison. Tu sais que la fausse modestie n'est pas mon fort. Je suis l'homme le plus qualifié pour ce travail, si les médecins spatiaux donnent leur accord. Et tu devrais savoir que je suis en assez bonne forme.
Ce qui provoqua le sourire qu'il avait voulu faire naître.
Quelquefois, je me demande si tu ne l'as pas toi-même suggéré.
À vrai dire, l'idée lui en était venue, mais il pouvait lui répondre en toute honnêteté.
Je ne l'aurais jamais fait sans te consulter.
Je suis contente que tu ne l'aies pas fait. Je ne sais pas ce que je t'aurais répondu.
Je pourrais encore refuser.
Maintenant, tu dis des absurdités et tu le sais. Même si tu le faisais, tu me détesterais pour le reste de tes jours et tu ne te le pardonnerais jamais. Tu as un sens du devoir trop développé. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles je t'ai épousé.
Le devoir.
Oui, c'était le mot-clé avec tout ce qu'il renfermait. Il avait un devoir envers lui-même, sa famille, l'université, envers son ancien poste, même si dans ce cas c'était resté dans le vague, envers son pays et envers la race humaine. Il n'était pas facile de déterminer les priorités et parfois elles entraient en conflit. Il avait des raisons parfaitement logiques pour participer à la mission et d'autres tout aussi logiques, comme beaucoup de ses collègues l'avaient indiqué, pour n'en rien faire. Mais, peut-être, en dernière analyse, le choix s'était-il fait dans son cœur, non dans son esprit. Et même encore, l'émotion le poussait dans deux directions opposées. La curiosité, la culpabilité, la décision de terminer un travail grossièrement bâclé, tout cela se combinait pour le pousser vers Jupiter et ce qui pouvait l'y attendre. D'un autre côté, la peur. Il était assez honnête pour le reconnaître, s'alliait avec l'amour qu'il portait à sa famille pour le retenir sur Terre. Pourtant, il n'avait pas vraiment eu de doute sérieux. Il avait pris sa décision presque instantanément et, avec toute la douceur possible, il avait écarté les arguments de Caroline. Et il y avait encore une consolation qu'il n'avait pas osé mentionner devant Caroline. Il serait parti pendant 2 ans et demi, mais tout ce temps, sauf les 50 jours du côté de Jupiter, il le passerait en hibernation. Quand il rentrerait, leur différence d'âge se serait réduite de plus de 2 ans. Il aurait sacrifié le présent pour qu'ils puissent vivre ensemble plus longtemps dans l'avenir.